Mademoiselle Deray, je dois vous informer que cet entretien sera intégralement pas filmé.
Intégralement pas filmé, un podcast présenté par Quentin Albou et Alice Lavigne.
Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de Intégralement pas filmé. Je suis comme à l'accoutumée accompagnée de la délicieuse Alice Lavigne. Comment ça va Alice?
Bah ça va super Quentin et toi?
Et bah moi ça va plutôt pas mal hein. Alors du coup, cette semaine, comme vous pouvez peut-être le remarquer, on a fait l'acquisition de microphones. On arrête d'enregistrer avec nos casques Marshall, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour vos oreilles, je pense.
Je pense en tout cas qu'il y a un certain glow-up quant à vos oreilles.
Cette semaine, on va parler du film Le Roi avec Timothée Chalamet qui est sorti sur Netflix.
Puis je vais vous parler de la rappeuse britannique Little Sims.
Et enfin, on aura une recommandation un peu spéciale puisque cette semaine, on reçoit une invitée.
Et oui, la merveilleuse, la magnifique, la sublime, l'intelligentissime Adriana a accepté de nous rencontrer il y a quelques jours dans un café pour qu'on puisse lui poser toutes nos questions sur son projet Épaule. Et donc, vous pourrez avoir la réponse à toutes ces questions à la fin du podcast. Vous verrez, c'est des plus intéressants.
Et pour ceux qui se demandent, elle peut vraiment être qualifiée par tous ces superlatifs qu'Alice a utilisés. Elle est vraiment bellissime, intelligentissime et gentillissime. Et d'ailleurs, du coup, vu que c'est notre première invitée, c'est un peu notre marraine. Hein. Donc respectez-la et respectez-nous, s'il vous plaît.
Envoyez énormément d'amour à son projet parce qu'il le mérite.
Et que c'est un sujet hyper intéressant et hyper nécessaire dans nos pays actuels. Et je tiens les notes avec ce nouveau micro parce que ça ne sature plus.
Mais du coup, Quentin, est-ce qu'on irait pas se faire une petite toile?
C'est marrant parce que je savais que t'allais me poser cette question.
Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
Cette semaine, on a regardé Le Roi, le film qui est sorti le 1er novembre dernier sur Netflix. Film de David Mitchell avec Timothée Chalamet, Joel Edgerton, Robert Pattinson, Lily Rose Depp et Thibaut de Montalembert que vous avez sûrement vu dans 10%. Alors ce film, on l'a vu tous les deux cette semaine.
Oui.
Et qu'est-ce qu'on en a pensé? Pour ma part, franchement, c'était un peu pas ouf quand même. Déjà, il est extrêmement long. Aussi long que cette note que je viens de vous dire.
Je pense qu'on peut le dire, oui.
Donc, j'ai pas dit, mais c'est un film historique, dramatique, c'est un peu un biopic. Donc, pour vous lire le synopsis, Hal, jeune prince rebelle, tourne le dos à la royauté pour vivre auprès du peuple. Mais à la mort de son père, le tyrannique Henri IV d'Angleterre, Hal ne peut plus échapper au destin qu'il tentait de fuir et est couronné roi à son tour. Le jeune Henri V doit désormais affronter le désordre politique et la guerre que son père a laissé derrière lui, mais aussi le passé qui ressurgit, notamment sa relation avec son ami et mentor John Falstaff, un chevalier alcoolique. Donc ça, c'est vraiment le synopsis de la première heure, entre autres. Donc c'est très très long, t'as une heure d'introduction du personnage de Hal où juste tu le vois allongé dans son lit. T'as 20 minutes de banquet où il reçoit une balle.
C'est super.
Et où il dit « Je vais déclarer la guerre au roi de France ». Ensuite, ah oui, parce qu'on l'a pas précisé, donc Timothée Chalamet, qui est francophone, joue le roi d'Angleterre. Et Robert Pattinson, qui est anglophone, joue le prince de France. Ça n'a aucun sens déjà.
Des génies, franchement.
Ah ouais, non mais franchement, j'aurais pu le faire avec mon cul, ce casting-là. Tu vois ce que je veux dire? Donc au bout d'une heure et demie peut-être, on introduit le beau, le grand Robert Pattinson. Comment dire que c'est vraiment de la merde? Enfin, le gars joue pas très bien.
Non.
Alors que, on le précise, on l'adore. Nous, on n'est pas des Twilight Shaming. Il a fait une connerie, c'est fini, c'est dans le passé. Il a fait de très bons films depuis.
Mm-hmm.
Mais alors celui-là, c'est vraiment pas son... Tu vois, l'Oscar, je le sens pas. J'ai un problème. Son accent français est ignoble.
J'en fais des cauchemars.
Surrender to me. Donc, on a ce problème des accents dans ce film, puisque Robert Pattinson a un très mauvais accent français. Timothée Chalamet, moi ça m'a pas dérangé plus que ça, mais toi il me semble Alice que son accent t'a pas trop plu.
Il a rien de britannique son accent. En fait quand il parlait, il avait des rechutes d'accent américain. Mais franchement quand vous avez écouté celui de Robert Pattinson, il n'y a plus rien de choquant dans l'accent de Timothée Chalamet. C'est une abomination. Quand il a prononcé ses premiers mots, j'étais en train de boire du thé, j'ai failli tout recracher sur mon ordi tellement que j'ai rigolé. C'est terrible son accent.
Ouais non c'est un enfer, c'est vraiment un enfer. Au-delà des accents, j'ai trouvé franchement même le jeu de Robert Pattinson vraiment pas ouf. Un peu trop folklorique, un peu... Enfin...
Bah en fait ça faisait vraiment du surjeu quoi.
Je sais pas ce qu'il a voulu faire, je sais pas du tout. Mis à part ça, on a ensuite des scènes de bataille qui sont vraiment pas mal. Pour le coup, la réal des scènes de bataille est vraiment qualitative. En soi, la réal en général est pas mal du tout. Après, je sais pas si c'est parce que je l'ai regardé dans de mauvaises conditions dans le train. Mais est-ce que t'as aussi trouvé que l'image était super sombre?
Oui, alors oui, c'était sombre, mais pas sombre genre Game of Thrones, tu vois. Pas sombre où tu peux rien voir du tout.
Ouais, bah c'est la rêve que j'allais sortir. pas autant que Game of Thrones, tu vois, mais moi j'ai trouvé que c'était très sombre, et du coup, dans les conditions un peu pas ouf que j'avais, j'ai pas vu grand chose. Enfin, il y a certains moments, tu vois, par exemple la scène du banquet où il reçoit la balle, j'ai pas tout vu, tu vois. Sinon, les scènes de bataille sont vraiment stylées. Cette histoire de bouillasse, j'ai trouvé ça un peu. Ou un peu trop. Même si la strat est stylée, tu vois, la stratégie. La scène où Pattinson descend de son cheval et. Enfin, je veux pas spoiler, mais c'est vraiment de la merde. Tu vois, ça, c'est grave en trop. C'est d'un ridicule. Mais tu vois, c'est pas ridicule. Genre, le perso est ridicule, ça devient ridicule, le film en devient ridicule, tu vois.
Oui.
Et ça, j'ai trouvé ça vraiment de trop. Ensuite, bah du coup, spoiler, Timothée Chalamet est vraiment le meilleur roi du monde. Du coup, il veut pas faire la guerre trop longtemps. Et il veut épargner les Français. Du coup, bah, il va ken la fille du roi.
Jouée par Lily Rose Depp.
Qui, elle, a un très bon accent français.
Oui.
Guess what? Elle est francophone. Oh, c'est peut-être ça le secret.
Et d'ailleurs, pour moi, Lily Rose Depp a le meilleur rôle de tout le film. Et puis, on la voit 5 minutes à l'écran. Voilà. En fait, la scène la plus importante, c'est vers la fin, où elle parle avec son futur mari, donc Timothée Chalamet. Et en gros, ils parlent tous les deux. Et c'est un peu la scène de la résolution du film. Et c'est là où tu te dis, c'est elle qui a le meilleur rôle. La scène dure. Allez, une minute, c'est tout, c'est plié.
Ouais.
Et j'avais un petit peu les nerfs, tu vois.
Ah, moi, j'avais grave les nerfs parce qu'en plus, une partie de la com du film, c'était autour de Lily Rose Depp.
Oui. Ah oui, complètement.
De Esra au casting, et je me suis dit, bah c'est cool, tu vois, on va la voir, en fait.
Bah comme Robert Pattinson, en soi.
Ouais, Robert Pattinson, en soi. Mais oui, lui, tu vois, disons que sa prestation reste plus en mémoire. Pas forcément sous un bon jour, mais tu vois, au moins, il est là. Pattinson, tu vois, mémorable de ouf. Lily Rose Depp, c'est ça, enfin, elle a le meilleur rôle, mais on lui... Tu vois, je me dis, tu fais 2h20 de film, bah mets-nous au moins une demi-heure de Lily Rose Depp, tu vois.
Ouais, je suis d'accord.
J'étais extrêmement déçu par rapport à ça. Et une incohérence qui m'a un peu dérangé, c'est que du coup, t'as Robert Pattinson qui a un accent effroyable en français, enfin en anglais. Par contre, le roi d'Angleterre qui parle français, le mec parle mieux que le prince de France. Parce qu'il y a plusieurs passages où il parle français, notamment avec Lily Rose Depp, et le gars a un accent nickel, tu vois. J'aurais peut-être dû faire l'effort de lui faire un faux accent anglais, tu vois, tant qu'on y est.
Le roi d'Angleterre avait un meilleur accent français que le roi de France, ce qui est un petit peu problématique quand même. Hein.
Mais surtout que ça fait extrêmement contraste parce que tous les autres personnages français du film, parce qu'il y en a plusieurs, ils sont tous français, donc c'est nickel. Et là, t'as Pattinson qui débarque et t'as envie de chialer de rire, en fait.
Ce que j'ai fait, d'ailleurs.
Ouais, bah oui. Mais moi, non, parce que du coup, j'étais, tu sais, le bouche bée, genre aphone. J'étais en mode, c'est pas vrai. Ce qui est vraiment dommage, c'est que je pense que ce film avait un potentiel de ouf. Et ça, c'est le gros point noir du film, c'est que du coup, t'y crois pas. Tu vois, t'as déjà 1h10 très longue, mais qui aurait pu être compensée par les super scènes de baston et tout. Mais sauf qu'au bout d'une heure 10, t'as un truc qui est ridicule au possible. Et du coup, tu crois plus du tout au film. Genre, moi, je suis carrément sorti du film.
Ouais.
Et j'ai trouvé ça extrêmement dommage. Parce qu'en soi, le jeu des autres, il est pas mal du tout. L'histoire, en soi, tient debout.
Timothée Chalamet, il joue bien. Hein.
Timothée Chalamet, il joue très bien. Genre, quand il motive ses troupes pendant la guerre, tu vois, j'ai trouvé ça extrêmement stylé comme scène.
Parce que c'est vrai qu'il a un rôle très idéalisé, très hollywoodien, de roi pacifiste, alors qu'en vrai, dans l'histoire, il n'était pas du tout pacifiste. Mais pour ce qu'on lui a demandé de faire, il jouait très très bien, ça, y a pas à dire.
On lui a demandé, fais-nous un prince pacifiste tourmenté par son père. Tu sens le mec qui est tourmenté, tu sens le mec qui est pacifiste, tu vois, genre le contrat est rempli. Mais en plus, t'as Lily Rose Depp, elle joue très bien. Thibaut de Montalembert joue très très bien le roi de France. Tout le monde, tu vois, même Joel Edgerton, en tant que vieux chevalier qui a les genoux qui grincent, bah le mec est carrément crédible, tu vois.
Il est vachement bien.
Ouais, non, mais lui, tu vois, pour le coup, c'est un super acteur. Et je l'adore en plus. Et du coup, le voir dans ce rôle-là, bah, j'étais hyper hypé, tu vois. Mais ouais. Hyper déçu de Robert Pattinson. Du coup, je pense qu'en termes de conclusion, on pourrait dire, si vous avez vraiment du temps à perdre, n'hésitez pas à le regarder. Si vraiment vous avez des vies normalement constituées, bah passez-le, parce que franchement, il vaut pas trop le coup. Parce que des bonnes scènes de baston, on en trouve dans plein de films. Tous ces acteurs-là, vous les retrouvez dans des films 10 fois mieux que ça. Même le scénar est pas ouf. C'est pas là-dedans que vous apprendrez l'histoire d'Angleterre, donc ouais, passez-le. Il y a aucun souci là-dessus.
Oui, et en plus... Après avoir fait un petit tour sur internet, j'ai vu que la communauté d'historiens de l'histoire d'Angleterre était en rage parce qu'apparemment, tout ce qu'ils racontent, c'est faux de A à Z. Donc ils disent en gros tout ce qu'on a construit depuis le début, et ben cette prod vient le détruire parce que c'est historiquement, c'est complètement faux ce que vous nous racontez.
Mais ça pour le coup, c'est un autre débat, mais je comprends pas les films qui suivent pas l'histoire. tu vois.
Pour leur défense, j'ai vu que c'était adapté de la pièce de Shakespeare. Et donc la pièce de Shakespeare était déjà bien idéalisée et fausse historiquement. Enfin, ils ont adapté juste la pièce de Shakespeare et ils n'ont pas cherché à faire quelque chose d'historiquement correct, alors que maintenant tout le monde sait que la pièce de Shakespeare est historiquement incorrecte. Ce qui est un peu étrange, mais on peut comprendre du coup. C'est un choix.
C'est un choix artistique, je vois pas de quoi vous parler.
Mais du coup, si tu devais nous noter ça sur 5 quintes, on aurait combien ?
Franchement, ça va que je suis un mec généreux parce que j'aurais vraiment pu mettre genre 0. Mais je vais mettre 1 quinte et demi. Ouais, 1 quinte et une oreille, tu vois, un truc comme ça.
1 quinte et une oreille pour le roi sur Netflix, ouais. Voilà.
Et du coup, Alice, est-ce qu'on n'irait pas faire un tour du côté de ta playlist ?
Bah, avec très grand plaisir.
Vous aimez Mozart ?
Oh oui. C'est lequel ?
Le dernier.
Alors cette semaine, j'ai décidé de vous parler de l'artiste britannique Little Sims. C'est une jeune britannique de 25 ans qui s'appelle Simbi Ajikawo de son réel prénom. Et j'ai décidé de vous en parler aujourd'hui pour la simple raison que j'avais absolument envie de vous en parler. Parce qu'elle n'a pas eu d'actualité musicale depuis mars, mais on n'avait pas de podcast en mars. Du coup, j'utilise ça comme mon excuse pour pouvoir vous en parler aujourd'hui. Que je vais vous parler de son dernier album, même s'il est sorti il y a maintenant quelques mois, mais bon, on va dire que ça passe.
Ça va, Mars, ça va.
Ça va, tu me l'accordes ?
Non, mais je te l'accorde surtout parce que je sais que t'en es fan depuis un grand, grand moment et je peux pas te refuser de parler de Little Sims.
C'est vrai. J'ai découvert Little Sims il y a 2 ans maintenant, puisque j'étais au concert de Gorillaz à Paris pour la tournée de leur album Humans, qui était, je pense, un des concerts les plus fous auxquels je suis allée. C'était au Zénith de Paris en 2017, et ils étaient, je crois, 18 sur scène. C'était un truc de malade. Et en première partie, il y avait qui ?
Jules.
Il y avait Little Sims. Haha.
Ah merde, putain, c'est vrai, je suis bête, j'ai raté.
T'as raté ton tour, mais bon, c'est pas grave. La prochaine fois, ce sera la bonne.
Oui, la semaine prochaine, je devinerai mieux.
Elle a fait la première partie de Gorillaz sur toute leur tournée, puisque le chanteur de Gorillaz, Damon Albarn, qu'on peut aussi connaître... parce qu'il est le chanteur de Blur et de 15 milliards d'autres projets. Ce qu'il aime beaucoup faire, c'est découvrir des jeunes artistes, que ce soit du rock, du rap, du R&B, de la pop. Et c'est ce qu'il a fait avec Little Sims. Il me semble que c'était pour la réédition de leur album Humans, pour lequel ils avaient fait donc, cette tournée à laquelle j'ai assisté. Il y a une chanson qui s'appelle Garage Palace, sur laquelle il y a Little Sims, et cette chanson c'est une dinguerie. Gorillaz a fait son concert, et en plein milieu du concert, elle est venue sur scène pour chanter Garage Palace, et autant te dire que le Zénith de Paris, pendant juste cette chanson, c'est devenu une boîte.
Ah, sympa.
C'était un truc de ouf, ça faisait des vagues humaines, qu'elle avait 23 ans quand on l'a vue. Elle a retourné le Zénith de Paris, alors qu'il y avait beaucoup de gens qui ne la connaissaient même pas à la base. Elle avait sorti 2 albums, donc le premier qui s'appelle A Curious Tale of Trials and Persons, et le deuxième qui s'appelle Stillness in Wonderland. Et là, donc en mars dernier, elle a sorti son 3e album, qui s'appelle Grey Area.
La zone grise.
Et c'est un si bel album, je sais même pas comment en parler, sans avoir l'air d'une énorme fangirl. Tu me connais, tu connais mes goûts musicaux. On va dire que le rap, c'est pas la première chose que t'associerais avec moi.
Bah, je pense que même les auditeurs peuvent se dire ça, puisque tu n'as fait que 75% de recommandations rock depuis le début.
Voilà. Et du coup, c'est là où je vous montre toutes mes facettes et toutes mes surprises.
Waouh, waouh, waouh. Aurait-elle des goûts hétéroclites ?
Et vraiment, je ne peux que recommander 1,5 milliard de fois cette jeune artiste. Moi, je viens ici vous parler de l'album Grey Area parce que c'est la meilleure chose qu'elle a sortie depuis le début de sa carrière. Tu vois vraiment qu'elle est ultra à l'aise avec son son et qu'elle a beaucoup plus évolué, qu'elle a eu beaucoup plus de moyens. Et du coup, cet album, il parle un petit peu de tout ce qu'elle vit en tant qu'artiste. Elle parle aussi, par exemple, donc c'est une jeune Britannique noire. Elle peut parler de ses expériences en tant que personne de couleur et femme, ce qu'elle fait avec brio, je pense qu'on peut le dire.
Ouais,
je pense notamment à la chanson Offense, qui est en gros elle qui se positionne comme un peu, tu sais, le leader d'une armée, et tu sens qu'elle vient la poitrine en avant en train de dire « Ok, je suis jeune, suis une femme, mais je suis là, j'ai de quoi peser dans le game, et enfin, écoutez-moi, en gros. Ou alors, le meilleur exemple, c'est la chanson Venom.
Ouais, Venom, ouf.
Une tuerie. Il faut absolument que vous écoutiez cette chanson. Elle a d'ailleurs fait une session live avec la chaîne YouTube Colors. Écoutez ça, c'est incroyable, cette femme a un flow. Enfin, du coup, pour clore sur Venom, c'est une chanson qui du coup parle de sa lutte en tant que femme, surtout en tant que femme qui est en train de prendre de la place dans le monde du rap, qui est un monde extrêmement masculin, extrêmement misogyne, ce dont elle en a énormément parlé pendant des interviews, et enfin, c'est une femme extrêmement intelligente. Tu regardes les paroles de Venom, et tu le lis avec le poing sur le cœur, tu sais, t'as envie d'aller démonter des mères, genre, vraiment, j'adore cette femme. Le message qu'elle représente, c'est tellement nécessaire. C'est comme je disais, une jeune femme de couleur qui est féministe, qui s'assume mais à 100%, et franchement ça fait tellement de bien d'écouter ça.
Même physiquement, genre quand tu la vois, elle en impose de ouf.
Ah mais carrément, oui, elle a une présence.
Justement, le Colors qu'elle a fait avec sur Venom, quand elle rappe, elle en impose de ouf. Moi qui suis un petit peu le rap surtout francophone, elle est plus imposante que beaucoup de rappeurs hommes, tu vois, et elle a un vrai flow. Même dans quand elle rappe, elle a un vrai flow, la meuf elle a des prods exceptionnels. Ses musiques sont vraiment hyper... Déjà, c'est hyper chelou comment elle a le pouvoir en même temps de t'énerver de ouf. Genre par exemple Venom, tu vois,
mm-hmm.
Ou genre c'est vraiment un rythme soutenu. Alors que du coup dans Selfish, t'as un rythme qui est beaucoup plus lent. Et du coup elle va être plus sur la corde sensible, elle va émouvoir. C'est un peu, ça détend, c'est relax. Et du coup tout son album, j'ai l'impression que c'est une alternance. Bon, t'as quand même plus de trucs soutenus où elle rappe vite et elle envoie son flow. Et t'as aussi ces petites touches de douceur qui viennent te caresser l'oreille. Et je trouve ça hyper, tu vois, un album qui envoie que de la colère et de la dénonciation hyper sévère, c'est trop. Genre à la fin t'as le rythme cardiaque qui est à 120-128, tu vois.
Oui, et puis c'est lassant aussi.
Ouais, alors que là, t'as ces petites touches de... On redescend un petit peu, tranquille, on chill, et c'est hyper stylé. Et du coup, écouter l'album d'une traite, ça fait trop plaisir.
Et oui, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. Et vraiment, enfin, cette chanson, Selfish, je trouve qu'elle change un peu. Enfin, tu sais, c'est du piano, comme tu disais, c'est pas de la démonstration de flow, c'est en duo avec une chanteuse qui s'appelle Cléo Sol, qui a une voix très douce. Et je pense aussi à la toute dernière chanson de l'album qui s'appelle Flowers, qui est sublime, qui est en duo avec un chanteur que j'admire immensément qui s'appelle Michael Kiwanuka, qui a une voix indescriptible tellement qu'elle est puissante mais douce, et je trouve que les deux vont tellement bien ensemble.
Ouais.
Enfin, cette chanson, ça fait vraiment comme un gros câlin, tu sais. Elle est tellement agréable à entendre.
Ouais, en vrai c'est ça, ouais. Tu vois, je trouve l'album, il a un peu ce côté justement où t'as l'impression que c'est un peu la mif.
Ouais.
Tu sais, la meuf, elle est hyper sincère. En tout cas, elle est généreuse de ouf. Et c'est ce que je trouve bien par rapport à beaucoup d'autres rappeurs qui, du coup, sont plus justement dans le superficiel. Je monte des trucs, et au final, c'est absolument pas qui ils sont.
Oui, tu sens que par moments, elle est vraiment vulnérable. Et c'est d'ailleurs cet album-là qui l'a un petit peu propulsée sur la scène internationale. Par exemple, et ça, j'étais tellement, tellement heureuse parce que c'est une énorme reconnaissance. Elle a été nommée pour le Mercury Prize. Et donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le Mercury Prize, c'est un prix qui existe en Angleterre et en Irlande. Et en gros, chaque année, il y a un panel de professionnels qui sélectionnent en gros une dizaine d'albums qui sont sortis pendant l'année. Et ils vont choisir l'album de l'année.
D'accord, c'est vraiment la reconnaissance de tes pairs, genre.
C'est ça, c'est un peu Grammy, mais t'as pas de différentes catégories, c'est juste album de l'année, et elle était nommée. Et j'ai trouvé ça incroyable, parce que c'est une énorme reconnaissance, parce que ça veut dire que c'est la reconnaissance de ses pairs.
Ça veut surtout dire que ses pairs pensent qu'elle a fait un des 10 meilleurs albums de l'année, tu vois.
Bah c'est ça, et donc par exemple... Dans les autres nommés avec elle, il y avait The 1975, il y avait Idols, il y avait l'album de Falls, la première partie, qui sont quand même des gros noms, des personnes dont on entend parler depuis quand même pas mal d'années. Et franchement, je me suis dit, mais elle mérite totalement sa place. Bon, j'étais quand même très triste qu'elle n'ait pas gagné, mais déjà le fait d'être nommée, c'est quand même une grosse reconnaissance et vraiment... Enfin, tu sais, j'ai ressenti un peu de fierté.
Ton bébé, il a été nommé.
Oui. Donc, je pense que je vais m'arrêter ici parce que je peux en parler des heures et des heures, mais vraiment cet album est tellement cohérent de A à Z et il est extrêmement varié. Donc par exemple, si on n'aime pas une chanson, on en aimera une autre. quoi qu'il arrive, vraiment, vraiment, écoutez-la.
Et du coup, je sais même pas si ça vaut le coup de te poser la question, parce que j'ai l'impression qu'on a déjà la note, mais combien de petites têtes d'Alice sur 5 ?
Eh ben écoute, je pense que si on devait noter que Grey Area, je pense qu'on partirait sur un 5, 5 sur 5.
Je te rappelle que 5 sur 5, c'est la note maximale, Alice.
Oui.
Et que du coup, c'est pour toi le top du top, c'est pour toi l'excellence.
C'est l'excellence, ouais.
Donc je pense que ça vaut vraiment le coup d'aller écouter l'album. Parce que si madame la critique musicale nous met 5 sur 5, c'est que c'est qualitatif. Et du coup, Alice, je te propose qu'on passe à la recommandation de la semaine. Alors cette semaine, une recommandation un petit peu spéciale, puisqu'on reçoit une invitée. Pour la recommandation, on reçoit Adriana. Salut Adriana, ça va ?
Salut, ça va très bien Quentin.
Alors Adriana, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas.
Alors voilà, je m'appelle Adriana, j'ai 22 ans et il y a quelques semaines, j'ai monté un compte Instagram, une sorte de communauté qui s'appelle Épaule Projet et donc on va en parler, je suis là pour en parler un peu plus, je crois.
Bah du coup, est-ce que tu peux présenter un petit peu, en gros, en quelques grandes lignes, qu'est-ce que c'est Épaule Projet ?
Donc en fait, c'est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques mois. L'année dernière, j'ai eu ma mère qui a été diagnostiquée avec un cancer du sein. Mm-hmm. Et j'arrivais pas trop à comprendre ce qui arrivait dans ma tête. Je me sentais mal, j'avais des réactions qui étaient assez complexes et j'avais l'impression de pas pouvoir en parler à personne. Et du coup, je me suis dit que j'allais monter un compte Instagram qui est basé sur un peu c'est une base un peu artistique, même si c'est pas l'idée première. L'idée première, c'est d'avoir des témoignages de jeunes sur toutes les émotions et toutes les colères et les tristesses qu'ils ont pu ressentir depuis que leurs parents ont été diagnostiqués avec la maladie. Le but final, c'est qu'ils se sentent moins seuls.
Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu ton processus de création ? Parce que tu disais que c'était un projet qui était artistique. Tu fais aussi les textes, les illustrations sur ton compte. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe ?
Alors, la raison pour laquelle ça a pris du temps, enfin, j'ai pris 5 mois pour le monter, c'est que j'essayais de convaincre une amie de me faire les dessins, parce que moi, je suis pas du tout dessinatrice à la base, j'étais étudiante en master. Et du coup, j'essayais de convaincre mon amie de me faire des designs et de m'aider sur le compte Instagram. Et puis ça commence à être un peu long, donc je me suis dit, bah, un soir vraiment arrosé, je me suis dit, bon, je vais le monter. J'ai plus rien à faire de mes jours parce que j'ai rendu ma thèse de master. Donc j'ai été m'acheter une tablette, genre au Darty du coin, enfin le Argos anglais. Et j'ai commencé à dessiner et j'ai essayé de trouver ma patte. Et je crois que ça rend un peu bien, bon, c'est un peu brouillon.
Mais... Ça rend très bien.
Merci. Et du coup, les textes, ouais, j'essaie que ce soit court, percutant, d'avoir un message, pas négatif, mais c'est pas toujours beau, hein. C'est de la tristesse, c'est de la frustration, c'est de confronter à la maladie de son parent. Mais après, d'avoir une note positive, de se dire, bah ouais, bah, par exemple, j'ai un dessin, c'est bah, ma mère, elle a commencé à perdre ses cheveux genre, très rapidement. Et ce que ma tante m'avait dit, c'est bah, en fait, c'est le résultat direct de bah, les médicaments qu'elle se prend dans la tête. Ça tue la maladie, mais ça fait aussi tomber ses cheveux. Genre, le voileux comme ça, c'est efficace. Et j'aimerais bien que bah, s'il y a des gamins qui ont un parent qui a eu la même maladie, ils disent, bah, il y a pas que du négatif, mais il y a aussi du positif, quoi.
Ouais, bah moi, quand j'ai vu ce post, justement, je me suis dit, putain, c'est un super message de dire, ouais, en vrai, la perte des cheveux, c'est un bon truc, parce que c'est que c'est efficace, en fait. Et je me dis, il y a très très peu de gens qui voient ça comme ça, et en vrai, c'est hyper cool que tu partages ça. Et la question qu'on se posait aussi avec Alice, c'est, vu que c'est déjà extrêmement qualitatif, et en vrai, déjà, bravo, parce que c'est super joli, c'est super intéressant et tout, est-ce que tu penses que tu vas te développer hors Instagram ou est-ce que c'est vraiment juste un projet que tu veux garder sur Instagram pour justement un public restreint et vraiment juste ceux qui veulent le voir le cherchent et le trouvent ?
Bah, le truc, c'est que j'essaie d'avoir... Le problème, c'est qu'une page pareille, pour qu'elle soit efficace et pour qu'elle touche le maximum d'enfants ou de jeunes adolescents ou d'adultes, il faut qu'elle ait beaucoup plus d'abonnés. Ou qu'elle ait une plateforme beaucoup plus grosse. Donc j'ai essayé d'appeler à des partenariats avec des associations. En plus c'était Octobre Rose, donc j'ai essayé d'avoir des partenariats. Ça a un peu marché et pas trop. Donc j'aimerais bien trouver peut-être. Je pensais à envoyer des posts à des journalistes ou même à monter un site internet, genre un blog, avec peut-être des témoignages un peu plus longs, des lettres. Quelque chose de plus large. Mais pour le moment, on a 3 semaines de création, donc et les témoignages se font attendre, donc ouais.
Ouais. Mais du coup, t'as des idées pour développer tout ce projet. Tu veux pas rester que sur des posts Instagram pour le moment ?
C'est ça, j'aimerais bien que ça grossisse. Après, pour le moment, c'est quelle visibilité on va avoir. Mmh. Et avec la visibilité, le support et le soutien des personnes sur ce réseau social, peut-être, oui, créer un blog et éventuellement, je ne sais pas, faire des partenariats avec des associations et peut-être grandir et être plus sur la place publique. Parce qu'Instagram, c'est petit.
Ouais. Et puis en plus, ce qui est vachement bien, c'est que tu fais tes posts en français et en anglais. Du coup, tu peux toucher deux publics différents.
C'est ça. En fait, c'est un peu bizarre, mais bizarrement, j'arrivais plus à exprimer mon malaise en anglais. En fait, j'ai déménagé. Quand ma mère a été diagnostiquée, je venais de revenir de New York de mon échange de licence. Et deux mois après, je partais pour mon master à Londres. Mm-hmm. Donc, j'étais dans cette bulle anglaise. Et tout ce malaise, bah, quand je le racontais à des amis, ou je le racontais en anglais. Et ça me permettait de me déconnecter. Et je me disais, bon, bah, si je veux toucher le plus de personnes possible, il faut que je le fasse en anglais et il faut que je le fasse en français aussi. Et du coup, voilà. Donc, c'est un peu. J'essaie de me chercher sur le bilinguisme de ce poste. Mais ouais, j'essaie de pouvoir toucher le maximum de personnes.
Ouais. Et est-ce que pour le moment, je sais que c'est un tout nouveau projet, mais est-ce que tu as déjà eu des retours
Alors, j'ai eu quelques retours. J'ai eu des retours, j'ai eu une dizaine de messages privés qui me disaient j'ai cette situation-là, j'ai un parent avec une tumeur, j'ai un parent avec un cancer et merci parce que là pour le moment c'est dur et je suis pas prête à témoigner ou je suis pas prête à témoigner ou c'est encore dur, c'est encore... Mais je vois que la culpabilité que j'avais ou que j'ai encore en ce moment, je peux voir que je suis pas toute seule ou je suis pas tout seule et... Et c'est vraiment pour ça que j'ai monté ce projet, c'est que j'étais dans mon lit avec mon copain ou j'étais avec une amie au café. J'étais, mais il y a 30% d'augmentation, je ne sais plus combien c'est les statistiques de femmes ou d'hommes touchés par le cancer. Et ils ont des enfants, et ils ont des jeunes enfants comme vous et moi. Et ils sentent pas forcément qu'ils ont besoin d'aller voir le psy, qu'ils sont touchés. C'est le parent d'abord. C'est le parent qui va peut-être... qui souffre. Et on se dit, c'est pas moi. Mais on souffre intérieurement. Et oui... De ressentir que j'étais pas la seule à me sentir mal et à me sentir coupable et à avoir toutes ces émotions-là, ça fait vraiment plaisir. Et même si c'est une ou deux personnes, au moins j'ai l'impression d'aider. Donc j'aimerais le faire grossir pour pouvoir en aider d'autres. Ouais.
Et j'ai vu aussi là que tu venais de lancer un appel à témoignage. Et du coup, est-ce que tu as une adresse mail ou autre à communiquer?
Donc c'est très facile pour les francophones, c'est moins facile pour les anglophones. Ça s'appelle épaule, comme une épaule, sans l'accent, épaule-projet. À gmail.com. Et donc l'appel à témoins, il y a un petit guide sur le compte Instagram, donc le compte Instagram c'est aussi Épaule Projet. Il y a un petit guide qui est dans les highlights. Il y a différentes rubriques, donc il y a le traitement, le diagnostic, etc. Et du coup, si vous voulez écrire juste 4-5 lignes sur une situation qui vous est arrivée, situation de la vie ou même une frustration ou un moment de joie, partagez, envoyez-le à cette adresse mail. Et j'essaierai de faire une belle illustration. Je pourrais même vous en parler en message privé. Comment vous voulez être représenté ou si vous voulez une certaine, un certain dessin, etc.
Et du coup, moi, en parcourant un peu le compte Insta, je me suis rendu compte déjà que c'était hyper personnel, que c'était vraiment des sentiments qui venaient vraiment du plus profond de ton être et que ça se sentait que c'était vraiment genre une plaie ouverte, tu vois, et que tu donnais vraiment ta personne. Et je me suis demandé... Est-ce que c'est uniquement justement tes sentiments, ton ressenti, ou est-ce que tu fais des recherches à côté pour trouver des statistiques, des trucs comme ça, ou c'est vraiment juste spontané, c'est je voulais raconter ça, je le raconte comme ça maintenant?
Alors le problème, la première fois que... Donc quand j'ai initialement pensé à ce projet, je me suis dit ça va être trop personnel et peut-être que j'ai un esprit très... pas complexe, mais un peu facilement mélancolique, etc. Et je me suis dit c'est juste moi qui me sens mal de mon côté. Et du coup... J'ai été dans une association bénévole en Angleterre et je leur ai parlé de ce projet. Je leur ai dit, est-ce que vous avez des témoignages d'enfants qui se sentent pas bien et qui vont chez le psy et qui se sentent frustrés, etc. Et ils me disaient, oui, il y a la frustration, il y a la colère, il y a le problème de comment se comporter avec son parent. Parce que le parent, moi, j'avais pas des relations saines avec ma mère. On était deux femmes fortes et on se disait pas je t'aime. Et là, d'un coup, Il y a le risque, il y a la vie en danger. Et du coup, est-ce qu'on vit normalement? Est-ce que moi, je ne veux pas la considérer comme une personne malade? Et du coup, cette association m'a dit oui, non mais vous n'êtes pas la seule. Et avec ces témoignages-là, les témoignages que j'ai reçus après l'appel à témoins m'ont fait comprendre que j'étais pas la seule à ressentir cette souffrance. Après, il y a des situations, c'est vrai, j'illustre avec d'autres... avec différents visages, différentes illustrations, etc. Donc j'essaie de le faire un peu moins personnel. J'essaie de faire mes recherches d'un côté aussi. Il y a des plateformes qui parlent d'enfants avec un parent atteint de la maladie. Donc j'essaie de le rendre un peu moins personnel. Mais ouais, dans l'idée, c'est... Essayer de le faire généraliste.
L'idée de base, c'était juste exprimer. Et après, c'est devenu vraiment un projet plus, on va dire, un peu plus pro, un peu plus avisé, associatif, quoi.
C'était direct associatif. Mais après, ça reposait premièrement sur mon témoignage. Et voir après comment les autres réagissent.
Et du coup, une autre question qui paraît un peu débile, mais on va la poser quand même, parce que certaines personnes n'ont peut-être pas la ref. Pourquoi épaule ?
Alors, donner un coup d'épaule, c'est une expression que j'entendais beaucoup quand j'étais petite. Bon, après, c'est peut-être une expression un peu vieillotte, mais c'était, on a une épaule sur laquelle se reposer, on a un ami ou une personne qui peut nous aider, qui a une oreille pour nous écouter. Et je me disais que c'était vraiment l'idée principale de la page, c'est mon gars ou ouais ma fille, t'es pas tout seul et tu ressens ça, tu te sens mal ce jour-ci, regarde, il y a quelqu'un d'autre qui s'est énervé contre sa mère ou contre son père alors que la personne était en traitement, et c'est pas grave parce que cette maladie, elle touche pas uniquement ton parent, mais elle te touche aussi et il faut que tu t'en rendes compte.
Est-ce que tu peux nous donner, par exemple, un petit échantillon de sujets que tu abordes ? Parce que la maladie, c'est un sujet qui est tellement large. Et du coup, par exemple, pour les personnes qui ne sont pas très, très familières avec cette maladie, quel type de sujet tu comptes aborder ou que tu as déjà abordé sur ton compte ?
Alors, pour le moment, sur le compte, on a l'annonce du diagnostic. C'était vraiment le commencement. Après, on attend avec d'autres témoignages, d'autres expériences de diagnostic. Mais c'est la première confrontation. Comment votre parent vous annonce qu'il est atteint d'un cancer. Après, il y a le traitement. Le traitement, c'est une grosse partie du cancer parce que c'est ce qui provoque les signes de la maladie. Un cancer, si on ne le traite pas, et il ne va pas se voir. Mais le traitement va entraîner tout ce que le public connaît, c'est-à-dire perte de cheveux, la fatigue et tout ça. Et de quoi on parle d'autre ? De l'énervement face aux parents ? Ou de la frustration, des reproches qu'on peut avoir. C'est pas facile pour un parent de se rendre compte qu'il va mourir, qu'il va potentiellement mourir. Et c'est encore moins facile quand le parent l'annonce à ses enfants. Donc oui, c'est des sujets comme ça. Il y a le diagnostic, l'hérédité aussi. Certains gènes du cancer peuvent se transmettre. Donc c'est toutes ces petites rubriques. C'est colère, tristesse, diagnostic, voilà.
Et moi, il y a un truc qui m'a marqué quand j'ai parcouru le compte. C'est le thème de la culpabilité, de se dire justement quand tu t'énerves contre ton parent, après tu te sens mal parce que justement il y a la maladie, de dire aussi, il y a un post qui dit, on te demande comment va ton parent, tu dis ça va, et tu te dis mais et moi tu me demandes pas comment je vais parce que je vis aussi la maladie autant. Et ça c'est des trucs que par exemple moi, en tant que personne qui n'a jamais été confrontée à la maladie, j'avais pas du tout en tête, et c'est justement pour ça que je trouve ce compte, il est bien non seulement pour les gens qui vivent cette maladie, mais aussi pour ceux qui l'ont jamais vécu, parce qu'au moins ça t'apprend à gérer, même quand tu n'as pas forcément à le faire, ou quand un de tes proches, par exemple un ami, vit ça dans sa famille à lui.
Mais c'est ça qui est assez, assez terrible, et il y a plusieurs étapes quand on a des amis, enfin tout le monde a des amis, mais quand on apprend la maladie de son parent, il y a une question qui se pose directement, c'est à qui je vais le dire ? Est-ce que je le dis à quelqu'un ? Est-ce que je le garde pour moi et je le dirai uniquement quand mon parent sera rétabli ? Et moi, j'ai lutté un peu à me dire, est-ce que je le dis ou pas ? Et j'ai commencé à le dire progressivement. Le processus de réaliser que ton parent est malade, parfois, il y a un autre poste comme ça, c'est on peut l'oublier. Moi, parfois, je rentrais chez moi et même si ma mère avait sa perruque, j'étais... elle n'est pas malade, quoi. On a une vie normale. Et quand un ami te dit comment va ta mère, on se dit
ouais, ça rend le truc réel, genre.
Ça le rend réel, on se dit merde, c'est vrai, elle est malade. Et après on réalise oui, mais c'est vrai que moi aussi ça va pas, et tu pourrais le dire aussi. J'en veux pas à mes amis ont été là pour moi, mais c'est on vit un peu à travers son parent au moment de la maladie, et je voulais juste faire ressentir aux enfants atteints, enfin dont le parent est atteint d'un cancer, que c'est normal de se dire j'aimerais bien qu'on me demande un peu des news de moi et comment je le vis, sa maladie.
Oui, parce que c'est ça le thème qui ressort un peu, c'est que, et c'est très bien, il y a de plus en plus de campagnes de prévention contre le cancer du sein notamment, mais à ma connaissance, il n'y a pas de communauté où les enfants dont un parent est victime de ce type de cancer peut communiquer librement, peut tout exprimer. Et du coup, le sentiment, c'est que tu es un petit peu seul contre tous, tu as peur de t'exprimer et justement, tu ne sais pas trop comment faire. Du coup, c'est très bien qu'on ouvre un moyen de communiquer et de délier un petit peu la parole et aussi enlever cette espèce de tabou qu'il y a autour de la maladie et de surtout du point de vue de l'enfant qui est concerné et on ne lui demande pas souvent son avis justement.
Bah oui, c'est ça, c'est... Encore une fois, on ne se rend pas compte qu'on a besoin d'aide dans ces situations-là. C'est assez étrange et c'est surtout, comme je le disais, il y a plus en plus d'adultes qui sont atteints d'un cancer, mais on n'entend pas les enfants, on n'entend pas la famille, on n'entend pas les cousins et moi, dans mon entourage... C'était assez étrange, mais je ne connaissais personne dont le parent, ou personne ne m'avait dit que son parent avait été atteint d'un cancer. Donc moi, je me retrouve dans cette situation avec ma petite sœur, où on ne communique pas trop dessus parce que c'est un peu tabou dans la famille, et je ne peux pas communiquer avec un ami qui a le même problème, où je serais un peu plus libre de communiquer comme ça. Et du coup, je suis toute seule, j'en parle à mes amis, mais mes amis, ils essayent de m'aider comme ils peuvent, mais ils peuvent pas, ils peuvent me dire que tout va bien aller, mais ils ne savent pas ce qui se passe derrière. Et du coup, il y a un problème, c'est, en anglais on dit relate, c'est, on peut pas se connecter à la personne. C'est-à-dire j'ai un problème de connexion, j'arrivais à me connecter un peu, mais j'arrivais pas à me connecter totalement. Donc la plateforme c'était un peu, vous voyez dans les films, les alcooliques anonymes, les grandes tours.
Ouais, c'est l'image que j'avais justement.
Mais c'est
ouais.
Ça, et je voulais vraiment, bonjour, moi c'est Adriana, j'ai ressenti ça et je me sentais super mal. Et vous avez ressenti quoi? Et Paul, c'est vraiment, c'est une table ronde pour exprimer cette parole des enfants de plus en plus nombreux dont les parents sont atteints de la maladie.
Et puis moi, je trouve ça vraiment hyper sain de rappeler justement aux proches de personnes malades que c'est tout à fait normal et sain de ressentir des choses aussi et de pas se dire je suis vraiment un putain d'égoïste parce que je me dis moi j'aimerais qu'on me demande comment je vais alors que genre mon père ou ma mère est malade, tu vois. Et je trouve ça hyper sain de le rappeler parce que c'est justement cette culpabilité, je pense, qui fait que c'est d'autant plus dur à vivre. Et se dire j'ai le droit de ressentir des trucs, c'est aussi s'enlever un poids sur ses épaules, alors que les épaules sont déjà extrêmement lourdes, tu vois. Et du coup, je trouve que ton projet, il est super bien aussi pour ça, parce que tu dis on a le droit de ressentir des trucs et de s'exprimer, même quand nos proches sont malades.
C'est ça, et c'était... Moi, ma mère, je l'aime, c'était pas le problème, mais... Mais il y a des moments, j'en pouvais plus et je m'énervais comme je m'énervais avec elle avant la maladie et j'avais envie de lui dire et je lui avais envie de lui dire bon bah j'ai pas envie qu'on s'embrouille pour rien comme on s'embrouille avant parce que peut-être qu'on a plus le temps, c'est vrai, on n'a pas le temps ou j'ai pas envie de te fatiguer avec ça. Mais s'il y a un problème et que tu m'as énervée et que le point est valable, j'ai envie de pouvoir être en colère sans pour autant qu'elle soit aperçue comme quelque chose de négatif ou de positif. Et ça c'est... Ouais, c'est une culpabilité. On se dit, non, la personne est malade. On doit la traiter comme un malade et on se taire un peu. Et je pense que c'est pas sain. C'est pas sain de refermer toute cette tristesse, cette haine, parce que ça grossit après. Et il y a un moment, même si votre parent guérit, et votre parent va guérir dans la plupart des cas, le malaise que vous avez ressenti pendant des mois, il va rester et ça risque d'être encore plus négatif parce que votre parent, il va avoir survécu. Et vous allez te balancer tout ça à la figure, c'est pas bon. Donc autant en parler dès le début et en parler avec des personnes qui ont vécu la même expérience. Peut-être pas aux parents, mais en parler avec des personnes qui ont les mêmes stigmas pour se libérer d'un poids.
Du coup, pour conclure, est-ce que tu peux dire en quelques mots, en gros résumé ton projet, les infos percutantes, importantes, tout ce qu'il faut connaître sur Épaule, où te contacter et tout ça?
Alors le projet s'appelle Épaule. Épaule Projet, on peut le trouver sur Instagram au même nom, Épaule Projet. C'est basé sur un principe de communauté. Vous pouvez m'envoyer un mail ou envoyer un mail à Épaule en allant sur le compte Instagram. Il y a un petit bouton avec écrit message ou à l'adresse épauleprojet@gmail.com. Et la structure des témoignages, comme c'est assez compliqué de témoigner sur une maladie pareille, c'est par petite chronique, par petit chapitre. Donc ça serait la tristesse, le diagnostic, hérédité. Donc plein de petites, un petit chapitre comme ça. Et vous m'envoyez tout ça à l'adresse mail. Et je peux ensuite vous joindre, communiquer avec vous sur la façon dont vous voulez le poster. Et après, on le poste sur la page.
Donc déjà, merci beaucoup d'être venu.
De rien.
Ça fait super plaisir. T'es notre première invitée. Hein. T'es un peu la marraine du podcast parce que là, c'est un truc de fou. Et merci aussi pour le projet qui est fantastique et je pense nécessaire, qui va amener beaucoup de bien à beaucoup de monde. Et voilà, je pense qu'on a fait le tour, Alice.
Oui, je pense aussi, oui.
Donc on te remercie, on te dit au revoir et bon courage surtout, ouais. Et bon retour à Londres et bonne vie.
Merci.
En général, pourquoi se priver ?
Donc un très 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 grand merci à Adriana d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions brûlantes. Et nous, on dit ça, on le pense très fort, on pense que c'était extrêmement intéressant. Vraiment, on a pris énormément de plaisir à parler avec elle et puis c'est vraiment un sujet qu'on trouve très important, très intéressant et que c'est vraiment nécessaire d'ouvrir une discussion autour de ce sujet. Donc vraiment un énorme merci à elle, ouais. Je le répète encore une fois.
On est extrêmement honoré d'avoir pu la recevoir. On n'aurait pas pu espérer meilleure cliente, j'ai envie de te dire.
Ah, je suis complètement d'accord. Donc on le répète une dernière fois, mais vraiment, allez la suivre sur @epauleproject sur Instagram. Vraiment, allez lâcher des commentaires, allez aimer tous ses posts, allez en parler à vos potes, à vos...
Envoyez-lui de l'amour, bordel!
Allez lui donner énormément de visibilité, elle en a besoin. Si on peut, si vous pouvez retenir une seule chose de tout ce podcast, c'est aller suivre Epaule Project, aller vraiment lire tous les posts parce que c'est important et aller lui donner beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour.
Eh ben écoutez, on va se dire au revoir. Merci de nous écouter. Alors n'hésitez pas à réagir, que ce soit sur notre adresse mail intégralementpasfilmé@gmail.com ou sur le hashtag tout nouvellement lancé. Hashtag IPF mime au pluriel parce que vous êtes plusieurs, bande de petits vénards. Et puis sur ce, on vous dit à la semaine prochaine. On vous envoie beaucoup d'amour et surtout, gardez la pêche. Ciao !